Dr. Dave Matthewson, Littérature du Nouveau Testament. Conférence 25, Thessaloniciens, Timothée et Tite.
Copyright 2024 Dave Matthewson et Ted Hildebrandt.
Il s'agissait du Dr. Dave Matthewson dans Histoire et Littérature du Nouveau Testament, conférence 25 sur les Thessaloniciens, Timothée et Tite. Très bien, allons-y et commençons. Aujourd'hui, je veux simplement conclure notre étude de 1er et 2e Thessaloniciens que nous commençons à examiner lundi, puis passer réellement à la discussion des trois derniers livres du recueil des lettres de Paul, 1 et 2 Timothée et Tite, puis à en quelque sorte, nous concluons notre discussion sur l'ensemble des lettres de Paul, ce qui pourrait nous amener jusqu'à vendredi. Mais aujourd'hui, au moins, nous commencerons à examiner 1 et 2 Timothée et Tite, qui, comme je l'ai dit, sont les trois dernières lettres appartenant à la collection de lettres de Paul que nous examinerons. Et puis nous passons au dernier segment du Nouveau Testament qui commence par Hébreux et nous mène jusqu'au livre de l'Apocalypse. Mais commençons par la prière, puis nous examinerons, résumerons les Thessaloniciens et commencerons par les trois dernières lettres du recueil des lettres de Paul. Père, encore une fois, nous sommes honorés de penser et de réaliser que tu nous communiqueras en tant que tes créatures, en tant que ta création. Et Seigneur, à cause de cela, je prie pour que nous soyons conscients de la nécessité d'écouter attentivement ta parole comme quelque chose qui est plus qu'une simple communication écrite mais un ensemble de documents qui ne contiennent rien de moins que ta parole même et ton message même. Révélation à ton peuple. Cela vaut donc la peine, tous les efforts, tout le temps et tout le travail acharné pour essayer de comprendre cela avec précision. Et donc, je prie pour que ce cours contribue d'une petite manière à être mieux équipé pour entendre votre parole comme les premiers peuples l'auraient écoutée, mais comme votre peuple d'aujourd'hui devrait l'écouter. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Très bien, nous avons terminé en examinant 2 Thessaloniciens, dont je vous ai suggéré qu'il était probablement écrit comme une réponse en partie à 1 Thessalonicien. Autrement dit, peut-être que les lecteurs de Paul, les lecteurs de Thessalonique, ont répondu ou trop répondu à la lettre de Paul dans 1 Thessalonicien, et à d'autres, Paul lui-même dans 2 Thessaloniciens mentionne la possibilité d'une lettre qui prétend provenir de lui. Mais le fait est que, pensez les Thessaloniciens, après 1 Thessalonicien, à un moment donné, les Thessaloniciens pensaient alors qu'il était déjà au jour du Seigneur. Une expression qui vient de l'Ancien Testament, le jour du Seigneur, ne fait pas référence à une période de 24 heures, mais au jour du Seigneur faisant référence à un moment où Dieu revient pour juger le mal et pour récompenser et sauver son peuple. Et maintenant les Thessaloniciens pensaient qu'il était déjà au jour du Seigneur. Ainsi, 2 Thessaloniciens est principalement écrit pour les dissiper de cette notion. Et Paul le fait en soulignant ces trois choses que nous avons très brièvement mentionnées lundi. Il dit aux Thessaloniciens, fondamentalement, vous ne pouvez pas être au jour du Seigneur parce qu'il y a certaines choses qui doivent se produire avant que le jour du Seigneur puisse arriver. Et parce que ces choses ne sont pas encore arrivées, vous n'êtes donc pas au jour du Seigneur. Les trois choses qu'il mentionne dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 sont la rébellion, l'homme d'iniquité et le frein dont Paul dit qu'il y a actuellement un frein qui sera enlevé. Ainsi, tant que ces trois choses n'auront pas eu lieu, le jour du Seigneur ne viendra pas. Et j'ai dit que le problème est que, tout au long de l'histoire de l'interprétation, nous ne sommes pas parvenus à un consensus sur ce que pourraient être ces trois choses. Surtout ce dernier, quel est le dispositif de retenue? Et comme je l'ai parcouru très rapidement lundi, il y a eu de nombreuses tentatives pour comprendre ce qu'est le dispositif de retenue. Certains ont dit que c'était l'Empire romain. L'Empire romain lui-même était le frein qui retenait le mal. Certains ont suggéré que c'était Dieu lui-même. Certains ont suggéré que c'était le Saint-Esprit qui était le frein qui serait supprimé. Certains ont dit que c'était l'Église qui constituait le frein qui serait supprimé. D'autres ont dit que l'évangile serait supprimé. Et il y a eu d'autres suggestions, de sorte que nous ne pouvons vraiment pas être sûrs de ce dont il s'agissait. Une partie du problème réside, comme je l'ai déjà dit, dans le fait qu'il y a deux choses que vous devez garder à l'esprit. L'un d'eux est que Paul leur a déjà enseigné ces choses auparavant. Alors malheureusement pour nous, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 5 il dit, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais encore avec vous ?» Apparemment, lorsqu'il était présent avec eux lors d'un de ses voyages missionnaires, il leur avait sans aucun doute enseigné cela. Alors maintenant, il ne voit pas la nécessité d'élaborer et d'entrer plus dans les détails. On peut donc supposer que ses lecteurs savaient de quoi il parlait, tout comme ceux qui étaient dans le noir. Donc, la meilleure façon de traiter cela, et en passant, ce sont probablement 3 choses qui auraient pu se produire et qui auraient pu se produire au cours de la vie de Paul. C'est le genre de choses qui auraient très bien pu se développer et se produire au cours de la vie de Paul. Mais son point principal est que certains événements ne se sont pas encore produits, donc les Thessaloniciens ne devraient pas penser qu'ils sont au jour du Seigneur. Il y a même une référence plus tard dans 2 Thessaloniciens à certains Thessaloniciens qui ne travaillent pas, et il y a des spéculations selon lesquelles cela pourrait être lié au fait qu'ils pensaient que parce qu'ils étaient déjà au jour du Seigneur, ils allaient se moquer des autres. Des gens et il n'était pas nécessaire de travailler. Mais Paul écrit uniquement pour les convaincre que jusqu'à ce que ces 3 choses arrivent, quelles qu'elles soient et à quel moment qu'elles surviennent, jusqu'à ce qu'elles arrivent, le jour du Seigneur n'est pas encore arrivé. Ainsi, les Thessaloniciens ne devraient pas se laisser tromper en pensant qu'ils vivent déjà à la fin, ou au jour du Seigneur. Alors, comment comparer 1 et 2 Thessaloniciens? D'une part, 1 Thessalonicien rappelle clairement à l'église de Thessalonique et aux chrétiens que Jésus-Christ pourrait revenir et que lorsqu'il le fera, ils participeront pleinement aux événements qui entourent la venue du Christ. Pourtant, 2 Thessaloniciens les avertit de ne pas conclure trop prématurément que le jour du Seigneur est déjà présent et est déjà arrivé. Ainsi, dans le canon, en juxtaposant 1 et 2 Thessaloniciens et leurs perspectives légèrement différentes sur la venue du Christ dans le même canon du Nouveau Testament, je me demande s'ils ne fonctionnent tout simplement pas pour s'équilibrer dans un certain sens. Ainsi, 1 Thessalonicien nous rappelle que Christ pourrait revenir de notre vivant. Mais parce que, relisons le chapitre 4, Paul parle même comme si Jésus pouvait revenir de leur vivant. Nous qui sommes vivants et qui restons à la venue du Seigneur serons enlevés pour le rencontrer dans les airs. Nous devons donc vivre comme si le Christ pouvait revenir de notre vivant. Pourtant, 2 Thessaloniciens nous rappellent que Christ pourrait attendre un certain temps. Nous ne pouvons pas présumer qu'il le fera nécessairement. Ainsi, 1 Thessalonicien, Christ pourrait revenir de notre vivant. Mais 2 Thessaloniciens nous rappellent que nous ne pouvons pas présumer qu'il le fera nécessairement, il pourrait retarder. Et le fait est que, dans les 2 cas, le peuple de Dieu vit préparé à l'un ou l'autre scénario. Je raconte toujours cette histoire en parlant de 1 et 2 Thessaloniciens. Je me souviens, pour vous montrer comment, si nous insistons sur l'un ou l'autre de ces éléments, nous pouvons risquer de nous tromper. Ainsi, par exemple, si nous insistons uniquement sur 2 Thessaloniciens que Christ pourrait retarder, cela pourrait conduire à un point de vue, eh bien, je mettrai de l'ordre dans ma vie tôt ou tard. J'ai tout le temps de mettre de l'ordre dans ma vie. Mais même dans le premier cas, le Christ pourrait revenir à tout moment. Je pense toujours au fait que j'étais pasteur d'une église lors de la première guerre du Golfe, en 1990, au début des années 90, lorsque George Bush père était président. Et je me souviens d'une époque où la guerre du Golfe s'intensifiait et j'ai allumé une station de radio et il y avait un certain nombre de stations de radio chrétiennes, et il y avait un certain nombre de gourous de la prophétie assis autour d'une table, et une émission bien connue à l'échelle nationale. Radio chrétienne. Un certain nombre de gourous de la prophétie étaient assis autour de la table et parlaient de ces événements et de la manière dont ils s'inscrivaient dans la prophétie biblique. Et je me souviens que l'un d'eux a dit, « Eh bien, nous devrions utiliser ce moment comme un moment pour renforcer nos tentatives d'évangélisation et pour conduire nos amis et notre famille à Jésus-Christ. » Et j'ai pensé, eh bien, c'est un bon conseil, mais cela devrait se produire de toute façon, que l'on pense que la fin est proche ou non. Ensuite, la personne suivante et moi-même ne divulguerons pas les noms pour protéger les coupables de ces personnes, la personne suivante, ma mâchoire s'est ouverte lorsque cette personne a dit, et quelqu'un qui était assez connu a dit, eh bien, je pense que les chrétiens doivent encaisser dans leur CD, vider leur compte bancaire et investir dans l'œuvre du Seigneur, vraisemblablement son église et son ministère. Mais au fond, dit-il, parce que c'est la fin. Et l'autre personne a accepté, oui, c'est la fin. Et nous devons prendre des mesures drastiques et vous devriez investir tout votre argent dans l'œuvre du Seigneur parce que cela finira par être la bataille d'Armageddon et la fin du monde. Et c'était dans les années 1990. Ainsi, près de 20 ans plus tard, je plains vraiment les personnes qui ont pris ce conseil au sérieux. Mais cela passe à côté d'une perspective que nous ne pouvons tout simplement pas connaître. Les chrétiens doivent être préparés à l'un ou l'autre scénario. Nous devons vivre comme si le Christ pouvait revenir de notre vivant, mais nous devons aussi vivre comme s'il pouvait retarder son retour. Nous devons vivre comme le Christ, car le Christ peut revenir de notre vivant, mais nous ne pouvons pas nécessairement présumer qu'il reviendra. Les chrétiens doivent donc être préparés à l'un ou l'autre scénario. Et en fait, je suis convaincu que cet équilibre se retrouve tout au long du Nouveau Testament, entre attente et retard en même temps. Et trop insister sur tout cela, je pense que cela peut parfois donner lieu à des idées fausses et, pire encore, à agir de manière plutôt stupide, car j'espère que personne n'a pris très au sérieux les conseils de ce type à la radio dans les années 90. Donc, je pense que mettre ensemble les 1er et 2e Thessaloniciens et leur échatologie légèrement différente démontre à quel point ils se complètent et comment nous devons écouter les deux. Alors peut-être que lorsque nous sommes tentés de penser que nous avons tout le temps nécessaire pour nous ressaisir et que nous allons simplement faire notre propre truc et profiter de la vie par nous-mêmes, selon notre propre agenda, nous avons besoin d'entendre le message des 1er Thessaloniciens. Mais quand nous sommes tentés de penser à faire des bêtises, comme vous avez peut-être tous entendu des histoires, j'en entends encore de temps en temps, de personnes qui ont ouvert des comptes bancaires ou contracté des emprunts importants parce qu'elles pensaient qu'elles ne le feraient pas, je dois les rembourser parce que Christ allait revenir. Lorsque nous sommes tentés de faire de telles choses, nous avons besoin d'entendre le message de 2 Thessaloniciens. Vous ne savez pas, Christ pourrait attendre un certain temps et vous devrez rembourser ce prêt ou autre. Donc vivre sagement à la lumière de ces deux perspectives et se préparer à l'un ou l'autre scénario. D'accord. D'abord Timothée, le suivant, en fait les 3 prochains livres que nous allons examiner, les 3 derniers livres de la collection des lettres de Paul, vous noterez dans vos Bibles que Philémon est le dernier livre de la collection des lettres de Paul dans le Nouveau Testament, mais nous avons traité de cela avec les Colossiens pour des raisons évidentes. Ainsi, les 3 dernières lettres que nous voulons examiner sont la 1ère et la 2ème Timothée et Tite. Ces 3 livres sont souvent appelés par les étudiants du Nouveau Testament les épîtres pastorales. Ainsi, nous avons déjà examiné le recueil appelé les épîtres de prison, Éphésiens, Colossiens, Philippiens et Philémon parce qu'ils ont été écrits pendant que Paul était en prison, bien qu'il y ait un débat quant à l'endroit où il était en prison. Mais celles-ci sont souvent connues sous le nom d'épîtres pastorales et très probablement, en fonction de leur contenu, il y a probablement de meilleurs noms pour elles que les épîtres pastorales, mais probablement en fonction de leur contenu, car en particulier dans le 1er Timothée aborde un certain nombre de questions liées à l'Église. Il parle du choix des anciens et des diacres. Il parle quelque peu de la structure de l'Église et de sa fonction. Et souvent Timothée, Paul écrit cette lettre à Timothée, nous parlerons un peu plus de lui, mais souvent il est considéré comme une sorte de pasteur ou de leader fonctionnel de cette église. C'est pourquoi, pour cette raison, ces lettres sont souvent appelées épîtres pastorales, même si, encore une fois, il peut y avoir de meilleurs noms pour elles que les épîtres pastorales. Comme nous l'avons dit, à mon avis, le livre du Nouveau Testament qui prétend le mieux être appelé la lettre aux Éphésiens serait 1er Timothée. Rappelez-vous, je vous ai suggéré que la lettre aux Éphésiens que nous appelons très probablement les Éphésiens n'a pas été écrite uniquement à la ville d'Éphèse. En fait, cette phrase d'Éphèse ne figurait peut-être pas dans le manuscrit original. Et le livre des Éphésiens s'est peut-être en fait adressé à un public très large, ne s'adressant à aucun groupe chrétien ou église spécifique ni à aucun problème spécifique. Cependant, d'abord Timothée est clairement adressé à une église, il est adressé à Timothée, mais Timothée doit transmettre son contenu à une église de la ville d'Éphèse. Ainsi, un Timothée, à mon avis, est le livre qui pourrait le mieux prétendre être qualifié de lettre aux Éphésiens, car c'est là qu'il aboutit finalement, s'adressant à l'église de la ville d'Éphèse. Maintenant, juste pour dire, je ne vais pas nécessairement résoudre ce problème, mais rappelez-vous, parce que les lettres de Paul sont classées en grande partie par ordre de longueur, chaque fois que nous avons un premier et un deuxième, comme un Corinthien, deux Corinthiens, un Thessalonicien. Deux Thessaloniciens, un Timothée, deux Timothées, nous ne pouvons pas nécessairement supposer que c'est l'ordre dans lequel ils ont été écrits. Ainsi, 1er et 2e Timothée et Tite correspondent à l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le Nouveau Testament, mais pas nécessairement à l'ordre dans lequel ils ont pu être écrits. Maintenant, je pense qu'il y a une chose sur laquelle tout le monde serait sûr, c'est que 2 Timothée est le dernier livre que Paul a écrit, du moins à notre connaissance. Parce que lorsque vous le lisez, Paul risque clairement l'exécution. Il est en prison et il se rend compte que c'est la fin de son chemin, c'est la fin de sa vie. Ainsi, 2 Timothée est clairement le dernier livre écrit. La question est de savoir où interviennent 1er Timothée et Titus. Encore une fois, je ne vais pas essayer de résoudre ce problème, mais beaucoup ont soutenu que Tite soit écrit en premier, puis Timothée en second, bien que certains aient soutenu, ou d'abord Timothée en second, bien que certains aient soutenu le contraire. Mais fondamentalement, tout ce que vous devez savoir, c'est que, encore une fois, il y en a, l'ordre dans lequel ils apparaissent n'est pas nécessairement l'ordre dans lequel ils ont été écrits, mais deuxièmement, la seule chose dont nous sommes sûrs est que le 2e Timothée était le dernier livre écrit. Paul est clairement confronté à la mort et au blocage du bourreau. C'est donc en quelque sorte sa dernière communication. Maintenant, premièrement, l'autre chose qui concerne le 1er et le 2e Timothée et Tite, en particulier le 1er Timothée et Tite, c'est que ce sont des lettres qui sont souvent remises en question quant à savoir si Paul les a réellement écrites ou non. La raison en est qu'au 1er siècle, en fait dans la période qui a précédé le 1er siècle et même un peu après, nous avons la preuve que le pseudonymat, c'est-à-dire écrire au nom de quelqu'un d'autre, sous un faux nom, était une pratique assez courante. Phénomène dans certains types littéraires et genres littéraires, c'est-à-dire que, généralement pour diverses raisons, un auteur d'une œuvre littéraire peut choisir d'écrire au nom de quelqu'un d'autre un personnage bien connu ou un héros bien connu qui était mort, peut-être pour ajouter de l'autorité au sien en écrivant. Peut-être pensait-il que la personne pensait qu'il écrivait réellement dans l'esprit de cette personne décédée. On se demande si c'était trompeur. En d'autres termes, que les gens pensaient réellement lire quelque chose que cette personne avait écrit ou qu'ils savaient, vous savez, que Paul n'a pas vraiment écrit ceci. Nous savons que c'est quelqu'un qui écrit simplement en leur nom, donc cela ne les aurait pas trompés et l'auteur n'essayait pas de leur lancer une histoire rapide et d'essayer de leur faire croire que Paul avait réellement écrit ceci. Mais il semble que le pseudonymat, écrire au nom de quelqu'un d'autre, notamment le nom d'une personne décédée et qui était une sorte de héros ou de personnage connu, était un procédé littéraire assez courant. Ainsi, la question que certains soulèvent est la suivante, certains documents du Nouveau Testament sont-ils peut-être pseudonymes? Et beaucoup pensent que 1 et 2 Timothée et Tite sont les meilleurs candidats pour cela. Et pour plusieurs raisons. Certains ont suggéré que le langage et le style de 1 Timothée et 2 Timothée et Tite sont les épîtres pastorales. Il dirait que lorsque vous comparez ces lettres avec les lettres que nous savons que Paul a écrites, le noyau des lettres telles que Romains, Galates, 1 et 2 Corinthiens, ces lettres, Philippiens que nous savons que Paul a écrites, le style et le vocabulaire qu'il utilise semblent-ils si différents de ces livres que comment Paul a-t-il pu les écrire ? Une autre raison est qu'il semble y avoir des différences théologiques entre les deux, encore une fois entre les épîtres pastorales, 1 et 2 Timothée et Tite, et certaines des lettres antérieures que Paul a écrites, aux Galates, aux Romains, etc. différences. Par exemple, il n'y a aucune mention de certains des thèmes théologiques qui apparaissent dans les autres lettres de Paul, comme la justification par la foi, et certains des thèmes dominants dont il parle dans ses autres lettres n'apparaissent pas. Ou bien il se développe un peu différemment. Paul semble considérer l'évangile davantage comme un dépôt fixe, un corps fixe de doctrine ou d'enseignement qu'il transmet, et certains voient donc cela comme une différence distincte par rapport à l'enseignement de Paul et à l'accent qu'il met sur l'évangile dans ses autres lettres. Il semble donc y avoir des thèmes théologiques qui sont absents dans les épîtres pastorales, ou des thèmes qui sont développés un peu différemment de ceux que l'on trouve dans certaines des autres lettres de Paul. Cela amène donc un certain nombre de personnes à penser que, eh bien, Paul n'a pas ou n'aurait pas pu écrire ces lettres. Un dernier point, plus tard, l'organisation de l'Église. Certains voient dans les épîtres pastorales une Église assez organisée et structurée. Et ce qu'ils disent, c'est que lorsque l'Église commençait tout juste au premier siècle, elle l'aurait été, avec son attente de la venue du Christ, et à mesure qu'elle grandissait, elle aurait été plus charismatique et moins structurée. Mais à mesure que cela commençait à se stabiliser, et à mesure qu'il commençait à croître et à s'installer sur le long terme, il devenait nécessaire de l'organiser avec plus de soin. Il y aurait donc des anciens, des diacres et une direction soigneusement structurée. Et certains disent que c'est ce qui se passe dans les épîtres pastorales. Les épîtres pastorales doivent donc être venues plus tard. Cela reflète un leadership structuré. Cela reflète une organisation et une structure d'église qui n'aurait été vraie que quelque temps après la vie de Paul. Par conséquent, Paul n'aurait pas pu écrire cela. Ainsi, pour ces raisons, et parce que l'écriture sous pseudonyme au nom de quelqu'un d'autre était assez courante, certains sont convaincus que Paul n'a pas ou n'aurait pas pu écrire 1 et 2 Timothée et Tite. Il doit avoir été écrit peut-être par un de ses disciples, peut-être par un disciple de Paul, qui, après sa mort, a maintenant écrit au nom de Paul pour aborder une situation à Éphèse. Et peut-être que les lecteurs des lettres le savaient. Peut-être qu'ils savaient exactement ce qui se passait. Ils n'auraient même pas pensé que Paul l'avait écrit. Ils savaient qu'il était mort, et ils savaient simplement que le pseudonymat est un procédé courant, nous savons donc qu'il s'agit probablement d'un disciple ou d'un disciple de Paul qui écrit cette lettre. Certains thèmes théologiques semblent être développés différemment de ce que l'on trouve ailleurs dans la lettre de Paul. Et l'un d'eux serait l'organisation de l'Église. Donc, il dirait, vous savez, vous lisez un Corinthiens où l'Église est plus charismatique et met l'accent sur les dons, alors que maintenant vous avez une direction plus soigneusement structurée qui gouverne l'Église, qui, selon eux, est plus révélatrice de l'Église après qu'elle ait été en place. Existence depuis un moment. Ou encore, l'Évangile est maintenant davantage conçu comme un dépôt d'enseignement, un corps d'enseignement plus bien défini que Paul transmet. L'autre est l'éthique des épîtres pastorales. Certains pensent que l'éthique des épîtres pastorales met l'accent sur la piété, sur le fait de vivre sa vie dans le monde, en essayant de vivre sa vie d'une manière qui reflète le début de l'Église à s'installer dans son environnement hostile et païen. Ainsi, l'éthique de 1 et 2 Timothée essaie davantage de montrer à l'Église comment vivre en harmonie et comment vivre au sein du monde séculier dans lequel elle va vivre pendant un certain temps. Alors qu'une fois de plus, l'hypothèse est que l'Église primitive aurait pensé que Jésus reviendrait bientôt et qu'elle vivrait donc sa vie à la lumière de cela. Maintenant, certains pensent, non, 1 et 2 Timothée supposent que l'Église va exister pendant un certain temps, et maintenant on leur montre comment devrions-nous vivre notre vie afin que nous vivions en harmonie avec et d'une manière qui ne le soit pas. Cela ne bouleverse pas trop le statu quo dans la société. Donc, il soulignerait tout cela et dirait que c'est juste un Timothée qui semble refléter une situation bien plus tardive, au-delà de la vie de Paul. Encore une fois, Paul, en lien avec le fait que le pseudonymat était un procédé assez courant, encore une fois, dirait certains, est probablement un disciple de Paul écrivant le genre de choses que Paul aurait probablement dit à l'église d'Éphèse plusieurs années ou plus. Après la mort de Paul. Et encore une fois, peut-être que les lecteurs n'auraient pas été contrariés. Ils auraient pensé, nous savons que Paul est mort, nous savons qu'il n'a pas écrit ceci, nous savons que c'est un disciple qui écrit en son nom. Donc, ils n'ont pas été trompés, et l'auteur de 1 et 2 Timothée et Tite n'ont pas été trompés non plus. Est-ce que tu aimes ça? Je veux dire, comment réagissons-nous à cela? C'est aussi une bonne question, pourquoi cela a-t-il été accepté comme écriture, surtout si l'Église pensait que c'est parce que Paul l'a écrit, nous devrions l'accepter comme écriture. Alors, aurait-il été trompé si Paul ne l'avait vraiment pas écrit? C'est un très bon point, il semble effectivement que le témoignage des premiers pères de l'Église, rappelez-vous ces dirigeants d'Église et ceux qui ont écrit après l'époque des apôtres, le témoignage de l'Église primitive était que Paul les avait écrits. Je veux dire, Théoriquement, je dois dire, je n'ai pas de problème avec l'écriture pseudonyme dans le Nouveau Testament si l'on peut démontrer qu'il ne s'agissait que d'un procédé littéraire qui n'aurait trompé personne. Mais la question n'est pas de savoir si cela est théoriquement possible, mais si cela s'est réellement produit. Devons-nous les lire comme des écrits pseudonymes que Paul n'a pas écrits mais quelqu'un après lui? Je dirais que même si nous ne pouvons peut-être pas obtenir une certitude absolue à 100% avec une précision scientifique, il y a de bonnes raisons de penser que Paul l'a écrit, à commencer par le témoignage de l'Église primitive selon lequel Paul était l'auteur de ses lettres. Je veux dire, vous examinez ces objections, tout d'abord, avec le langage et le style, même si nous avons plus de livres écrits par Paul que n'importe quel autre auteur dans le Nouveau Testament, il n'y a toujours pas assez d'écrits de Paul pour faire une comparaison et déterminer ce que Paul aurait pu et n'aurait pas pu écrire. En d'autres termes, si je veux comparer le style d'un auteur et le type de vocabulaire qu'il utilise, j'ai besoin de beaucoup plus d'écrits de Paul que nous n'en avons dans le Nouveau Testament. Donc, nous n'avons vraiment pas assez d'écrits dans le Nouveau Testament pour dire avec certitude que Paul n'aurait pas pu écrire dans ce style, ou que Paul n'aurait jamais pu utiliser ces mots de vocabulaire, ou qu'ils sont si uniques que Paul n'aurait pas pu l'utiliser. Écrit. Il nous faut juste bien plus que ce dont nous avons besoin pour déterminer ce que Paul aurait pu ou non écrire. Il est donc intéressant de noter que la plupart des gens qui prétendent que Paul n'a pas écrit ses lettres ne le font plus autant en se basant sur le style et le vocabulaire, car ils reconnaissent que statistiquement, nous avons juste besoin de beaucoup plus de lettres de Paul pour être plus confiants. Le deuxième problème concerne également les différences théologiques. Encore une fois, il me semble, tout d'abord, en réponse à ceux qui disent, « Eh bien, parce que 1 et 2 Timothée et Tite ne contiennent pas certains des enseignements majeurs comme la justification par la foi, et que vous n'êtes pas sauvés par les œuvres de la loi mais par la grâce par la foi en Jésus-Christ et le langage de la réconciliation. Certains des thèmes théologiques que nous avons vus répétés à maintes reprises dans certaines lettres de Paul, le fait qu'ils n'apparaissent pas dans 1 et 2 Timothée et Tite ne disent pas grand-chose. Je veux dire, est-ce que Paul doit dire tout ce qu'il croit et pense à tout moment? Est-il possible que la situation qu'il aborde l'ait amené à adapter sa lettre de la manière dont il l'a fait, de sorte qu'il mette peut-être l'accent sur d'autres thèmes ou sur d'autres thèmes sur lesquels il aurait normalement insisté, mais qu'il ne met pas en avant à ce stade? Il peut y avoir diverses raisons pour lesquelles il ne met pas l'accent sur certains des thèmes qu'il a abordés plus tôt, et il peut y avoir des raisons pour lesquelles il les développe d'une manière différente. En fait, je ne suis pas convaincu que la distance entre 1 et 2 Thessaloniciens, je suis désolé, 1 et 2 Timothée et Tite et les autres lettres de Paul, je ne suis pas convaincu que la différence soit si drastique, que les thèmes se soient développés de manière aussi grandement que Paul n'aurait pas pu les écrire. Donc, encore une fois, celui du milieu, je pense, doit être utilisé avec prudence. Nous ne pouvons pas dire avec certitude, eh bien, Paul n'aurait pas pu écrire cela parce qu'il ne met pas l'accent sur cela ou parce que ce thème est développé de cette façon. Je pense qu'il faut les traiter avec prudence. Le dernier fut plus tard l'organisation de l'Église. En fait, lorsque vous lisez attentivement 1 et 2 Timothée et Tite, il est intéressant de constater à quel point cela en dit peu sur l'organisation de l'Église. La principale préoccupation de Paul n'est pas une Église hautement structurée et organisée. Tout ce que vous avez à faire est de lire attentivement la lettre et elle en dit très peu sur la manière dont l'Église est organisée et structurée. En fait, si vous revenez en arrière, nous avons déjà regardé le livre des Philippiens. C'est intéressant, Philippiens commence par s'adresser aux anciens et aux diacres de l'Église de Philippe. Donc, je pense qu'il est exagéré de dire que l'Église primitive du début du 1er siècle n'a jamais été structurée et n'a eu de direction que plus tard. Il semble qu'assez tôt, l'Église ait eu une structure et une direction. Et que 1 et 2 Timothée et Tite ne semblent pas vraiment avoir grand-chose au-delà de ce que nous trouvons dans certaines des premières lettres de Paul, à savoir une Église hautement organisée et structurée avec des évêques et des diacres et un ancien principal, un évêque en chef et d'autres. Évêques. 1 Timothée et Tite ne le prouvent tout simplement pas. Donc, en fin de compte, je vais suggérer qu'en fin de compte, ces éléments ne sont pas définitifs. Oui, il nous rappelle que nous ne pouvons peut-être pas conclure avec une certitude absolue à moins que Paul ne soit là pour dire, oui, c'est moi qui les ai écrits. Mais je ne pense pas qu'il y ait suffisamment de preuves pour infirmer le témoignage de l'Église primitive selon lequel Paul a écrit ses lettres. Et donc, je vais opérer et avancer en supposant que Paul est en fait l'auteur de 1 et 2 Timothée et Tite. Et que les différences entre les deux seraient liées à sa situation, à la situation à laquelle il fait face, etc. Alors, quel est le but de 1 Timothée? Nous commencerons par 1 Timothée. Ce que j'ai dit à propos de la paternité paulinienne, que Paul les ait écrits ou non, est en quelque sorte vrai pour les trois. Et dans un sens, le but l'est aussi. Mais maintenant, en parlant du but, je vais me concentrer principalement sur 1 Timothée. Pourquoi cette lettre a-t-elle été écrite? Comment vous lisez et interprétez 1 Timothée a beaucoup à voir avec ce que vous pensez que Paul faisait. L'approche courante, en quelque sorte l'approche traditionnelle depuis un certain temps, est ce que j'appelle l'approche manuelle de l'Église, selon laquelle 1 Timothée a été écrit comme une sorte de manuel d'instruction pour Timothée sur la façon de diriger l'Église. Ainsi, cela lui donne des instructions sur ce qu'il doit faire lors de l'adoration. Il lui donne des instructions sur la façon de choisir les anciens et les diacres, chapitre 3. Il lui donne des instructions sur la façon de gérer les différents groupes dans l'Église, ce que les anciens devraient faire et ce que devraient faire les diacres. Ainsi, 1 Timothée devient une sorte de manuel d'Église qui n'est qu'un manuel d'instruction que Paul a écrit à Timothée pour lui dire comment gouverner, gérer et prendre soin de l'Église d'Éphèse. Il n'est donc pas étonnant qu'aujourd'hui nous fassions souvent appel à 1 Timothée pour soutenir ou justifier certains gouvernements d'Église, qu'il s'agisse plutôt d'un gouvernement de type congrégationnel, d'un gouvernement d'Église de type dirigé par les anciens, ou d'un gouvernement d'Église de type presbytérien ou épiscopal. 1 Timothée est souvent appelé à soutenir cela. Ou lorsqu'il s'agit de la manière dont nous choisissons les anciens et les diacres dans notre Église, que sont-ils censés faire? Eh bien, revenons à 1 Timothée et nous trouvons des informations qui nous aident à déchiffrer ce genre de questions. Et je ne veux pas dire que nous ne devrions pas faire cela, mais je veux proposer autre chose que l'opinion communément admise selon laquelle 1 Timothée est une sorte de manuel d'Église, juste un manuel d'instruction sur la façon de diriger l'Église. La clé se trouve juste au début de 1 Timothée. Je suis toujours sur 2 Thessaloniciens. Nous y sommes. Il s'agit des versets 3 et 4 de 1 Timothée. Paul dit, « Je t'en prie, Timothée, c'est pourquoi le livre s'appelle Timothée parce qu'il en est le principal destinataire. » Paul dit que « Je t'exhorte, Timothée, comme je l'ai fait lorsque j'étais en route pour la Macédoine, à rester à Éphèse. » Il est donc clair que Paul écrit à Timothée et lui dit de rester à Éphèse afin que vous puissiez demander à certaines personnes de ne pas enseigner un enseignement différent ou faux et de ne pas s'occuper de mythes et de généalogies sans fin qui favorisent la spéculation plutôt que la formation divine connue à travers foi. En d'autres termes, l'objectif principal que Paul écrit est un objectif que nous avons vu dans plusieurs lettres de Paul, à savoir combattre une sorte de faux enseignement qui a maintenant infiltré l'Église et menace le véritable évangile. Donc, je suppose, voici ce qui se passe. Très probablement, Paul a nommé Timothée, l'un de ses collaborateurs, puisque Paul, pour une raison quelconque, ne pouvait pas être là lui-même, Paul désigne maintenant Timothée pour aller à l'église d'Éphèse et s'occuper de ce problème, c'est-à-dire, dit-il, avertissant les gens de ne pas enseigner cette fausse doctrine ou ce faux enseignement qui favorise des spéculations sans fin sur les généalogies, etc., au lieu d'une véritable formation dans l'évangile et d'un véritable progrès dans l'évangile de Jésus-Christ qui vient par la foi. Ainsi, 1 Timothée n'est pas un manuel d'église pour nous dire comment faire l'église, c'est avant tout un livre qui est écrit pour dire à Timothée, pour lui apprendre comment gérer un faux enseignement qui a infiltré l'église d'Éphèse. Ainsi, en ce sens, 1 Timothée appartient à la même catégorie que Galates et Colossiens en tant que livre dans lesquels Paul aborde une sorte d'enseignement déviant ou de faux enseignement qui constitue désormais une menace pour l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, je suppose que ce que Paul va faire dans 1 Timothée n'est pas principalement, devrais-je dire, de dire à Timothée comment diriger l'évangile, mais plutôt de lui apprendre comment gérer ce faux enseignement qui s'infiltre dans l'église d'Éphèse. Et donc, il charge Timothée d'aller dans cette église et de s'occuper de ce problème. Donc, et l'autre chose, quand vous lisez un Timothée, il est clair que Timothée est en quelque sorte le personnage médiateur. Paul écrit à Timothée, mais il n'instruit pas, il instruit principalement Timothée, il donne à Timothée des instructions qui devraient être transmises à l'église d'Éphèse. Ainsi, Paul écrit à travers Timothée à l'église d'Éphèse. En fin de compte, ce sont eux qui doivent obéir à la majorité des instructions contenues dans un Timothée, l'église d'Éphèse. Mais Timothée est en quelque sorte l'intermédiaire, le médiateur qui doit arbitrer cette information. Ainsi, Paul s'adresse à Timothée parce que Timothée est en charge de l'église d'Éphèse, et Timothée doit ensuite communiquer cette information à l'église d'Éphèse. Donc, ce que cela signifie, c'est que le livre de 1 Timothée, je pense, ressemble à peu près à ceci. Ensuite, lorsque nous comprenons le but de 1 Timothée, est-ce que Paul instruit Timothée sur la façon de combattre ce faux enseignement qui a infiltré l'église d'Éphèse? 1 Timothée alors, je pense, peut être vu dans son, à peu près dans chaque chapitre, dans chaque majeur. Sections, peuvent être considérées comme les différentes manières que Timothée devrait mettre en œuvre pour combattre et traiter ce faux enseignement. Donc, tout d'abord, la première façon dont Timothée et l'église d'Éphèse combattent les faux enseignements est de mettre l'accent sur l'évangile de la grâce de Dieu. Il est intéressant de noter que dans le premier chapitre de 1 Timothée, Paul se sert lui-même comme exemple de quelqu'un qui a été sauvé ou saisi par la grâce de Dieu et qui a été sorti de sa situation antérieure et qui a maintenant été sauvé et sauvé grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Ainsi, la première façon de combattre les faux enseignements est de mettre l'accent sur l'évangile de la grâce de Dieu. La deuxième façon, et encore une fois, ces divisions ne sont que grossières, chapitre 1, chapitre 2, mais la deuxième façon de combattre les faux enseignements est d'observer l'ordre approprié de l'Église. Très probablement, une partie de ce que faisait le faux enseignement provoquait le chaos et la perturbation dans l'Église alors qu'elle se rassemblait pour le culte, les obligeant à faire des choses d'une manière très bouleversante et totalement non conventionnelle. Ainsi, Paul appelle l'Église à rétablir l'ordre lorsqu'elle se rassemble pour le culte. Et c'est très important. Nous y reviendrons dans un instant. Mais tout le chapitre 2 s'adresse à l'Église alors qu'elle se rassemble pour le culte, pas à ce que les chrétiens font chez eux ou en privé ou pas à ce qui se passe sur leur lieu de travail, mais tout le contexte du chapitre 2 est l'Église qui se rassemble pour le culte. La troisième manière de combattre les faux enseignements consiste à choisir des dirigeants d'église qualifiés. C'est la section où Paul parle du choix des anciens et des diacres. Nous en parlerons un peu plus dans un instant et verrons quel est le lien. Chapitre 4, en encourageant le prophète à rétablir un traitement approprié pour divers groupes de l'église. Ainsi, au chapitre 4, Paul aborde divers groupes, les veuves, et la manière dont il traite les anciens, et la manière dont les plus jeunes traitent les personnes âgées dans l'Église. Encore une fois, il semble que ce faux enseignement, quel qu'il soit, ait provoqué des perturbations et le chaos dans l'Église. Et maintenant, encore une fois, Paul essaie de restaurer cela en les appelant à observer et à faire attention à la façon dont il traite différents groupes et différentes personnes au sein de l'Église, y compris leurs dirigeants, ce qui est en fait le chapitre 5. La dernière façon de combattre les faux enseignements est de Paul dit à Timothée d'encourager un traitement approprié des dirigeants de l'Église. Je vais laisser cela de côté pendant un moment. Même si j'hésite à le faire parce que, encore une fois, ce n'est pas le cas, cela tient peut-être davantage à notre état d'esprit occidental et à notre désir de tout résumer dans une belle phrase sonore ou dans un joli thème soigné qui résume le tout. Mais il semble que si je devais choisir une section de 1 Timothée 3 ou un verset qui pourrait résumer le thème dominant ou l'un des thèmes dominants du livre, ce serait le chapitre 3, verset 15, où Paul dit que si je suis retardé, je vais revenir en arrière et lire 14, j'espère revenir vers vous bientôt. Ainsi, dit Paul à Timothée, j'espère effectivement te rendre visite à un moment donné à Éphèse, mais je t'écris ces instructions afin que si je suis en retard, tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, qui est la église du Dieu vivant, pilier et rempart de la vérité. Ainsi, dans un sens, le chapitre 3, verset 15 résume ce que Paul fait dans cette lettre. Il veut que les chrétiens d'Éphèse sachent comment ils doivent se comporter dans l'Église en tant que maison de Dieu et pilier de la vérité. Et toutes ces instructions, je pense, contribuent à cet objectif. L'Église, cela reflète également le fait que l'Église était communément comprise au premier siècle comme une maison. De la même manière qu'il y avait certaines fonctions et certaines manières dont la maison fonctionnait, Paul voulait que cela se reflète également dans l'Église en tant que maison de Dieu. Et cela se reflète dans le chapitre 3 et le verset 15. Je voudrais maintenant examiner quelques passages de 1 Timothée juste pour démontrer comment la compréhension du contexte peut faire une différence dans la façon dont nous abordons le texte. La première est « Je ne me souviens pas si c'est sur mon nom ». Je remettrai ceci au cas où quelqu'un serait encore en train d'écrire. La première section que je veux examiner est une partie du chapitre 2, et je ne veux pas y consacrer beaucoup de temps, mais encore une fois, juste assez pour démontrer les problèmes liés à la tentative de compréhension de certains textes à la lumière du pourquoi Paul les a peut-être écrits. Que se passe-t-il dans ces passages, et comment pourrait-il être des réponses à ce problème de faux enseignement qui a infiltré l'Église? Ce sont les derniers versets du chapitre 2 de 1 Timothée 2. Paul dit, « Quelqu'un porte-t-il de l'or et des perles, et vous avez les cheveux tressés. Tu ne devrais pas faire ça. » Je viens de le lire. Non, nous y retournerons et en reparlerons. Laissez une femme apprendre en silence avec une totale soumission. Je ne permets pas aux femmes d'enseigner ou d'avoir de l'autorité sur un homme. Elle doit garder le silence. Car Adam a été formé le premier, puis Ève. Et Adam n'a pas été séduit, mais la femme a été séduite et est devenue une transgresseuse. Pourtant, elle sera sauvée par la procréation, à condition qu'il continue dans la foi, l'amour, la sainteté, avec modestie. Que fait-on avec un texte comme celui-ci? Encore une fois, nous prenons cela plutôt simplement, donc oui, nous ne pouvons pas porter de perles et d'or et avoir les cheveux tressés, et les femmes devraient se taire et ne pas enseigner à un homme, ni avoir d'autorité sur un homme, ni parler. Permettez-moi de dire quelque chose. Premièrement, la première chose à retenir est que, quelle que soit la manière dont vous comprenez ce texte, il fait référence à l'Église lorsqu'elle se rassemble pour le culte. Cela ne veut donc rien dire sur ce qui se passe nécessairement à la maison, ou sur ce qui se passe dans la vie privée, ou non, que cela ne présente pas d'intérêt, j'essaie juste de démontrer l'objectif principal de Paul. Il ne s'agit pas de ce qui se passe sur le lieu de travail. Paul parle de ce qui se passe lorsque l'Église se réunit pour adorer. La deuxième chose à comprendre est, encore une fois, que Paul s'adresse à un faux enseignement qui s'est infiltré dans l'Église et qui a apparemment causé des problèmes dans le culte. Il ne s'agit donc pas simplement d'un enseignement hors contexte. Paul ne s'assoit pas et ne dit pas, « Je vais enseigner le rôle des femmes dans l'Église ». Il aborde un problème spécifique qui a probablement été précipité par ce faux enseignement, quel qu'il soit, qui a maintenant provoqué des perturbations au sein de l'Église. Maintenant, permettez-moi de suggérer autre chose. J'ai dans ma bibliothèque un livre intéressant rédigé par un certain Bruce Winter, un universitaire britannique de Cambridge, en Angleterre. Il a écrit un livre intéressant dans lequel il soutenait, à partir de preuves littéraires du 1er siècle, qu'il y aurait eu ce concept dans le monde romain de ce qu'on appelle la nouvelle femme, ou la nouvelle femme romaine. En fait, certains, bien que cela ait été désapprouvé par le public et le général, ainsi que par l'empereur, et en particulier les philosophes de l'époque du 1er siècle, bien que cela ait été désapprouvé, préconisaient cette idée d'un nouveau roman romain. Femme. C'était quelqu'un qui affichait sa liberté. C'était quelqu'un qui s'habillait de manière provocante. Fondamentalement, ils ont fait étalage et sapé les rôles traditionnels du mariage et la valeur du mariage. Ils faisaient simplement étalage des conventions de la société et de tous les rôles traditionnels du 1er siècle. Encore une fois, promouvoir cette démonstration ostentatoire de sa richesse. Encore une fois, s'habiller de manière provocante, montrant un manque de respect envers leurs épouses et leurs maris. Est-il possible que ce soit l'une des choses qui ont maintenant infiltré l'Église d'Éphèse? Cela expliquerait pourquoi Paul s'élève-t-il contre le port de l'or, des perles, des cheveux tressés et des vêtements coûteux. pas nécessairement parce que ces choses en elles-mêmes sont fausses, mais est-il possible que ce soit précisément ce que suggérait ce nouveau concept de femme romaine? Ce qu'il leur dit, par conséquent, c'est que ce n'est pas tant que ces choses en elles-mêmes sont mauvaises, mais qu'il ne faut pas s'habiller de cette manière provocatrice et irrespectueuse que cette nouvelle femme romaine promeut. De plus, même dans ce cas, les instructions de Paul lorsqu'il dit que la femme ne devrait pas avoir d'autorité sur son mari ni l'enseigner. Est-il possible alors, encore une fois, que cela reflète la tendance de cette nouvelle femme romaine à faire étalage, encore une fois, des conventions, à manquer de respect envers le mari, à manquer de respect pour le mariage traditionnel, la valeur du mariage et les rôles traditionnels au sein du mariage? Ce qui a bouleversé Paul, c'est que cela s'est infiltré dans l'église d'Éphèse et que cela fait maintenant surface dans leur culte par des femmes qui viennent et s'habillent d'une manière qui reflète cette nouvelle femme romaine, qui reflète un style de vie et une attitude qui était même répréhensible par certains des chrétiens, les philosophes païens et le public romain en général. Et maintenant, Paul veut que ça cesse. Il ne veut pas que les femmes agissent selon ce concept, une nouvelle femme romaine qui est juste un peu rebelle et affiche les conventions de la société et sape toutes ses valeurs traditionnelles, s'habille de manière provocante et ostentatoire et manque de respect à son mari, s'habille d'une manière qui manque de respect au mariage, etc. Et Paul veut que ça cesse. Alors peut-être qu'en comprenant un peu le contexte, vous pourrez comprendre pourquoi Paul écrit ainsi, pourquoi il aborde le sujet de cette façon, pourquoi il interdit certaines façons de s'habiller, pourquoi il interdit aux femmes d'enseigner dans l'église et d'avoir autorité sur leur mari, parce que c'est peut-être ce faux enseignement et peut-être cette nouvelle idée de la femme romaine du 1er siècle qui a maintenant infiltré l'église d'Éphèse et cause toutes sortes de ravages, et Paul veut que cela cesse. Ouais, c'est possible. C'était peut-être suffisamment sérieux pour qu'il parle en termes très absolus. Peut-être que c'est la situation, et c'est l'un des points que je veux aborder dans un instant concernant la façon dont nous appliquons ce texte, mais il est possible que l'un des problèmes soit, en d'autres termes, que Paul veuille simplement que cela s'arrête là. Situation. Peut-être que cela est tellement infiltré dans l'Église et cause de tels problèmes que son seul recours est simplement d'y mettre un terme. Il parle donc en termes assez forts. Ouais, ça pourrait l'être. Peut-être que la façon dont il gère cela pourrait refléter la différence dans la façon dont il a géré les situations dans ses lettres précédentes. Mais est-ce que tout le monde voit cela? Comment il semble qu'à première vue, Paul réponde à un problème très spécifique, un faux enseignement ainsi que cette nouvelle idée de la femme romaine dont même les philosophes païens et d'autres membres de la société ne semblent pas être satisfaits. Maintenant, cela est entré dans l'Église, et au moins quelques femmes en ont été affectées, et maintenant Paul essaie d'y mettre un terme, parce que cela se manifeste particulièrement dans l'Église lorsqu'elle se rassemble pour le culte, avec les femmes s'habillant comme cette nouvelle femme romaine qui affiche les conventions de la société, s'habille de manière provocante, manque de respect au mariage, à ses partenaires, et Paul veut que cela cesse. Alors, dit-il, ne vous habillez pas comme ça et, vous savez, ne pas enseigner ni avoir d'autorité sur vos maris en signe de manque de respect à leur égard. La question est de savoir si Paul dirait quelque chose de similaire à d'autres églises dans d'autres situations. Oui, comment cela se comportait-il à 1 Corinthiens 11, où il leur a donné des instructions liées, de façon intéressante, à 1 Corinthiens chapitre 11, où Paul aborde la situation de l'adoration, il donne en fait une section dont nous n'avons pas parlé, parce que je savais nous en parlerions dans ce livre, dans 1 Timothée, si Paul aborde également la question de la relation entre maris et femmes dans le cadre du culte. Maintenant, pour revenir sur ce débat principal, et je ne veux pas le régler, mon intention n'est pas tant de le régler que simplement de vous faire voir le problème. Le débat principal est de savoir si les instructions de Paul ici dans le chapitre 2 sont universellement contraignantes, c'est-à-dire si Paul aurait dit quelque chose de similaire à n'importe quelle église du 1er siècle ou du 21e siècle. En d'autres termes, les instructions de Paul au chapitre 2 concernant les femmes qui n'enseignent pas et n'ont pas d'autorité sur les hommes dans l'Église sont-elles contraignantes pour aujourd'hui? Est-ce universel, ou est-ce plus culturel et limité? Paul avait-il destiné ses instructions uniquement à l'Église d'Éphèse du 1er siècle et pas nécessairement à quelqu'un d'autre? Ainsi, dans tout autre contexte, Paul était heureux que les femmes enseignent et prêchent et aient autorité sur les hommes, etc. Mais à Éphèse, ce n'était pas le cas. Ou encore, était-ce là le désir de Paul d'avoir une église? Nous en reparlerons davantage vendredi. Il s'agissait du docteur Dave Mathewson dans Histoire et littérature du Nouveau Testament, conférence 25 sur les Thessaloniciens, Timothée et Tite.